Bernard Poirette, on refait le monde dans RTL Soir.
Il est 19h29 exactement. Merci de nous écouter. Les quatre polémistes ce soir sont Olivier Mazerolle, Guillaume Perrault, Clémentine Autain et Hélène Pilichowski. Dalil Boubaker, ce week-end, a déclaré, donc je précise que c'est le président du Conseil français du culte musulman, a déclaré que le nombre de 2200 lieux de culte musulman actuellement dans l'Hexagone était notoirement insuffisant et qu'il faudrait le doubler, selon lui, sachant qu'il y a entre 4 et 5 millions de musulmans en France. Les chiffres ne sont pas bien connus, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des statistiques qui recoupent ce genre de données.
Il va même plus loin, entre 4 et 6 à 8, il dit.
Lui dit ça.
C'est la première fois que j'entendais ces chiffres-là.
Ça me semble beaucoup quand même. Enfin bon, disons peut-être 5. Allez, ok. Alors, la question est toute bête. Est-ce qu'il vous semble que c'est une revendication légitime? Voilà, supposons qu'il y a 4 ou 5 millions de musulmans. Est-ce qu'il leur faut 4400 lieux de culte au lieu de 2200? Guillaume Perrault.
Alors, la première remarque que je ferai, c'est le contexte dans lequel le recteur de la grande mosquée s'est exprimé. C'est
à lui, oui.
Voilà. Et ça, pour moi, ça me pose problème parce que ça risque de parasiter le fond du sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas assez de mosquées en France? C'est une vraie question. Mais le problème, c'est que le recteur de la grande mosquée s'est exprimé face à l'UOIF, qui se réclame des frères musulmans. Donc un mouvement d'inspiration égyptien à l'origine, qui réclame que le Coran soit la source du droit. Et même si l'UOIF ne reprend pas au sens strict, de façon aussi littérale, les revendications des frères musulmans égyptiens, évidemment, ils sont quand même dans cette famille de pensée. Donc je suis troublé que le recteur de la grande mosquée choisisse ce contexte-là pour s'exprimer. Pour moi, ça pose problème, si vous voulez, parce que évidemment. Quelle est l'interprétation qu'on peut en faire? C'est une concession du recteur à l'UOIF, qui est la fraction la plus, qui sont là pour la plus, pour être aimable, la plus traditionnaliste, pour être aimable, des sensibilités des musulmans de France. Et je ne l'avais jamais entendu tenir des propos aussi catégoriques. Et c'est sûrement la traduction de conflits de pouvoir à l'intérieur du Conseil français du culte musulman. Donc il y a deux questions. Il y a les aspects politiques à l'intérieur du Conseil français du culte musulman, et puis il y a le fond du sujet lui-même. On peut évoquer les deux successivement, si vous voulez.
Non, mais allez-y.
Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est le fond du sujet. C'est ce qui intéresse nos concitoyens, c'est ça. Est-ce que oui ou non, il faut construire des mosquées? Moi, je réponds très simplement, la liberté de conscience et de culte est assurée par la Constitution française. S'il est avéré qu'on manque de lieux de culte, il faut en effet en construire.
C'est avéré.
Ça me paraît naturel. Donc oui, je réponds oui. Mais attendez,
ils sont obligés de prier dans la rue.
Non mais attendez Bernard, il faut aussi que le besoin soit objectif, qu'il soit apprécié par les services de l'État de façon autonome et qu'il ne soit pas simplement des revendications d'associations militantes devant lesquelles l'État est tenté de céder pour avoir la paix. Il faut que vraiment ça soit l'État qui apprécie la réalité du besoin, la sincérité du besoin et évidemment que ça soit confié à des associations culturelles qui ne soient pas salafistes.
Hélène Pilichowski.
Bon, c'est vrai que c'est un problème compliqué. Moi, je pense que si le besoin est réel, et si, comme vous dites, le premier argument qui vient à l'esprit, c'est les pauvres, ils n'ont pas d'endroit pour digne de ce nom. Vous
voyez la rue Mira, dans le 18e.
Voilà, ils sont obligés de prier dans la rue. Certains vous diront, oui, mais prier dans la rue, ils le font aussi par ostentation. Je ne sais pas exactement quels sont les besoins. On ne peut pas estimer les besoins en fonction du nombre de musulmans. Il y a d'abord ceux qui pratiquent pas régulièrement. Regardez, il y a 46 000, j'ai regardé, il y a 46 000 clochers d'église en France. Oui. On estime qu'il y en a 9000 maintenant qui servent au culte, enfin qui servent à la religion catholique. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile de recenser les besoins. Si effectivement c'est la vérité qu'il y a des endroits où ils sont obligés de se réunir dans des tentes, dans des trucs de fortune ou même dans la rue, pourquoi pas? Mais le problème, le vrai problème qui se pose au niveau de la construction de mosquées, c'est leur financement. C'est ça qui pose problème, parce qu'on sait très bien qu'il y a des financements qui viennent des pays, Qatar, Arabie Saoudite, etc. Ce qui peut poser des problèmes au niveau, effectivement, du rôle que peuvent jouer ces pays et ceux qui viennent en France pour construire les mosquées dans le bâtiment, etc. C'est quand même une présence qui n'est pas vraiment contrôlée de ces pays à travers le financement. Ils envoient des fonds. C'est compliqué quand même. régler, ça veut dire que bon, c'est quelque chose qu'il doit falloir réguler, qu'il doit falloir pouvoir contrôler pour savoir comment ça se passe, parce que bon, voilà.
Mais par exemple, Olivier Mazerolle, vous qui connaissez bien le cas de Marseille quand même, qui est la grande ville musulmane française, le fait est, il manque des lieux de culte, non ?
Oui, à Marseille, il manque des lieux de culte.
Non, mais ça, c'est... Il en manque peut-être pas à Quimper, mais enfin bon...
C'est indéniable, il y a des endroits où il manque des lieux de culte.
Sans doute.
Mais il y a quand même, effectivement, cette ambiguïté extraordinaire pour ce qui concerne l'organisation du culte musulman en France.
Ouais.
Le problème, c'est que le Conseil français du culte musulman est tenu par un pays qui s'appelle l'Algérie, en réalité. Et donc, les Marocains ne l'aiment pas, les Tunisiens ne l'aiment pas. Bref, il y a un conflit politique qui se déroule sur les territoires français. Mais c'est pas ça le pire, finalement. Le pire, il y a quelques jours, là, j'ai fait une interview d'un écrivain algérien que les auditeurs de RTL connaissent bien, parce qu'il lui avait décerné le prix Lire RTL, Boualem Sansal, qui rappelle comment l'Algérie est devenue islamisée à un moment donné. Mais je dirais presque comme Richard Virenque, qu'à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire sans s'en rendre compte, parce qu'au début c'était plutôt sympa, ils étaient un peu bizarres, etc. Et puis progressivement, quand ils se sont rendus compte de ce que ça représentait, c'était trop tard. Et dans l'interview, il me disait cette chose, il me disait, mais vous savez, les vrais islamistes, ils acceptent la laïcité. Tariq Ramadan, il accepte la laïcité. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il ne dit pas. Parce qu'à travers ce biais-là, il feint d'accepter la laïcité pour entrer dans l'esprit des gens et ensuite peser sur l'organisation de la société. Et par conséquent, c'est là où nous avons un problème. Moi, je suis persuadé que l'immense majorité des musulmans... Vous savez, je suis allé la semaine dernière dans des collèges et lycées un peu...
Vous racontiez ça ce matin.
Eh bien, les profs, ils me disaient... Voilà, il y a une proviseure qui a fait retirer un bandeau un peu large à une jeune fille parce que j'ai appris, moi, je ne savais pas que le bandeau très large, c'est le subterfuge pour éviter l'interdiction de porter un foulard. Bon, très bien. Mais les profs m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, vous savez, on croit que c'est les parents. Mais les parents, dans la plupart des cas, bon, il y a quelques exceptions, bien sûr, mais ils veulent quoi ? C'est que leurs gamins réussissent. Point. Le vrai problème, et c'est peut-être pas les mosquées d'ailleurs, je ne sais pas, je ne suis pas assez compétent pour parler de ça, mais c'est les salafistes qu'on laisse traîner dans les cités, qui vont dans les coursives des immeubles, qui vont frapper aux portes et qui disent, on a vu votre fille l'autre jour, on a vu votre fils l'autre jour qui faisait ceci. Résultat, me disent-ils, on a beaucoup de jeunes filles qui sont à l'origine pas du tout tentées par ça, mais qui veulent pas être traitées comme des prostituées par d'autres, qu'elles ne sont pas d'ailleurs, mais qui finissent par revêtir des habits larges pour ne plus être enquiquinées. Les garçons, bah, quand on a 15-16 ans, entendre dire qu'on est supérieur aux filles, c'est excitant. Donc on finit par être happé par ça. Et moi, je me demande ce que nous faisons, mais pas seulement l'État, la société française, par rapport à ce prosélytisme délétère. Après les mosquées, si on a envie d'aller prier dans une mosquée, oui, bien sûr, à 100%.
Voilà, vous, donc Clémentine, c'est là où on va arriver sans doute dans la polémique. Quelle est cette société ? C'est une société qui, dans ses grands médias, ne passe pas une semaine sans qu'il y ait une pour stigmatiser l'islam. Mais je suis désolée, nous sommes dans cette société-là. Nous sommes dans une société qui, depuis des années et des années, a pris pour cible les musulmans comme étant les ennemis de l'intérieur, les nouveaux barbares, ceux qui étaient inassimilables puisqu'il s'agirait d'assimiler une partie de la population, etc. Moi, je le dis comme ça cache, parce que je suis absolument dans une colère très très forte à l'égard de ce discours dominant, qui est un discours dominant anti-musulman, et derrière ce discours anti-musulman, stigmatisation de l'islam, il y a du racisme, et je veux le dire très franchement. Ceci étant posé, la question des mosquées. Pareil, ne nous noyons pas dans un verre d'eau. C'est une évidence qu'il y a besoin de mosquées dans ce pays. Il faut voir dans quelles conditions. Alors franchement, Mme Pilichowski, je vais vous emmener.
Allez avec Clémentine.
Mais je vous assure, en Seine-Saint-Denis... Regardez, je vous assure, regardez des situations où on n'a pas envie qu'ils égorgent des moutons dans des caves, qu'ils aillent prier dans des lieux qui sont des lieux indignes, etc. Mais c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Que gagne la République dans cette situation de deux poids deux mesures comme lieu de prière et comme relégation en réalité d'une partie de la population
de nos campagnes pauvres, où il y a des prêtres qui font 4 ou 5 ou 6 messes pendant le week-end parce qu'il manque de prêtres et dans des petites églises totalement délabrées où les personnes sont bien contentes d'avoir un prêtre dévoué qui pour rien du tout sans gagner un sou va faire des messes gratuitement parce qu'il y a pas d'autre prêtre que lui.
Oui, mais enfin en tout cas il y a une
église. Venez voir aussi, vous verrez l'autre version.
Il a une église et l'argent qui est donné par l'État, par la collectivité publique pour entretenir les bâtiments qui sont des patrimoines. J'entends bien de l'histoire, hein, donc je ne conteste pas.
Ils ont été nationalisés en 1905. Heureusement que l'État en tient compte. Il l'a nationalisé.
Écoutez-moi, je ne conteste pas le fait qu'il soit... Mais comprenez que dans le même temps, si on veut la liberté de culte, il faut permettre...
L'État devra entretenir les mosquées.
Parce qu'il y a deux questions. Il y a celui des permis de construire. Parce que vous ne croyez quand même pas que l'État va faire un plan Marshall de construction de 2000 mosquées en France. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est un débat.
Ça fait 3 par jour,
le recteur
a dit Florian.
Le recteur.
Hein. 3 par jour.
Mais c'est bien, alimentons.
Allez,
c'est bien, alimentons. Ça ne se passera pas comme ça et ce n'est pas l'État qui va faire comme ça. Simplement, il faut arrêter avec la stigmatisation et faire en sorte que très tranquillement, localement, quand il y a des besoins, et effectivement, pour pas forcément, pour éviter plus exactement de les créer dans des endroits où il y aurait des salafistes derrière, etc. Mais peut-être de faire en sorte, autant faire ce peu. De regarder quels liens peuvent être noués pour favoriser.
Mais je suis pas en total désaccord avec vous.
Hein. Sur ça, je ne le crois pas. Mais si vous commencez en disant attention, mosquée égale problème égale concession musulmane.
On se rejoint sur un point.
Et qu'ils sont tous salafistes et djihadistes.
On se rejoint sur un point. Je pense effectivement que le vrai problème, c'est que par rapport à nos compatriotes d'origine musulmane. Il y a un manque de relations, de liens créés total, et qui provoque effectivement cette rupture et qui provoque cet antagonisme.
Mais par conséquent, me disent, mais foutez-nous la paix, parlez d'autre chose,
qui provoque cet antagonisme. Donc là, il faut qu'on arrive effectivement à surmonter ça de notre côté. De l'autre côté, il faut bien reconnaître que, puisque cette religion, l'islam, n'est pas organisée en tant que telle, en tout cas chez les sunnites, c'est quand même l'immense majorité des musulmans qui sont représentés ainsi, eh bien, il se pose la question de savoir qui va être l'imam de la mosquée. Voilà. Et si l'imam... Il y a des imams qu'on entend parler, qui disent des choses tout à fait respectables. Et puis après tout, on peut me dire qu'il y a 50 ou 60 ans, dans les prêches de l'Église catholique, j'ai un âge qui me permet de dire ça. Moi, j'étais gamin, mais j'ai entendu un jour un curé qui expliquait pratiquement comment il fallait voter à l'élection suivante.
Absolument.
Donc, maintenant, ça ne se fait plus. Bon, donc, il faut certainement... Non, mais comment... Je parle de partisans, je parle pas sur un problème de société.
Ça peut encore arriver, on va dire.
Voter à droite plutôt
si
qu'à gauche.
Bon,
passons. Mais là-dessus, ça ne se fait... Enfin, je pense que ça ne se fait plus. En tout cas, si ça se fait, c'est très minoritaire. Mais en revanche, en ce qui concerne les imams, il y a la religion musulmane a vocation pour certains de ses représentants à diriger la société. C'est là où est le problème.
Guillaume Perrault, dites ce que vous avez à dire brièvement parce qu'on a deux thèmes à faire en 10 minutes. Alors bonne chance.
Présenter nos concitoyens musulmans comme des victimes d'une espèce d'hostilité de principe que la société française aurait envers eux est tout à fait faux et tout à fait blessant pour la France. La France n'a pas à être en position d'accuser en permanence, elle serait raciste, islamophobe, que sais-je, ce qu'on entend tous les jours. Je suis fatigué d'entendre ça en permanence.
La
France sonore d'être d'une des rares démocraties libérales de ce monde qui assure la liberté de conscience et de culte. Il faut commencer toujours par souligner ça. Ça fait du bien d'entendre ça aux gens qui se sentent agressés en permanence par le réquisitoire que vous venez, Clémentine, de dresser envers eux. Et
monsieur,
je suis fatigué d'entendre. Par ailleurs, je vais vous rappeler un fait historique que, curieusement, vous n'avez pas évoqué. C'est qu'en 1900, vous qui êtes si attaché à la laïcité, il y a 40 000 religieux séminaristes et religieuses catholiques qui ont dû s'exiler parce qu'on avait fermé leurs cloîtres, leurs séminaires, leurs églises catholiques. Dieu merci, personne ne réclame ça. Absolument, c'est le cas de le dire et c'est volontaire. Dieu merci, personne ne réclame ça à l'égard de nos concitoyens musulmans. C'est pour ça qu'il faut appliquer la loi.
Ok, 19h44, stop les mosquées, on passe à autre chose. Les autoroutes, tout de suite.
Oh. Oh.